Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Dans un télégramme publié mardi et adressé au président vietnamien Tho Lam, le pape François a exprimé sa proximité spirituelle aux proches et à la famille de son Excellence Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste et ancien président de la République socialiste du Vietnam, décédé vendredi 19 juillet à l'âge de 80 ans. La visite du cardinal Pietro Parolin en Ukraine se poursuit. Après avoir rencontré et prié avec les communautés latines et gréco-catholiques le week-end dernier, le secrétaire d'État du Saint-Siège a rencontré mardi le président du Parlement à Kiev. Nous y reviendrons de l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Burkina Faso. De petits groupes de jeunes en Ouganda ont bravé mardi une interdiction de manifester malgré de nombreux barrages de la police anti-émeute massivement déployés dans la capitale Kampala. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique sur le continent qui nous conduira aussi en Éthiopie. Dans la deuxième partie de cette édition, nous vous proposerons la seconde partie de l'entretien avec le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali et président de la conférence épiscopale rwandaise sur les 125 ans de l'évangélisation au Rwanda. Et nous terminerons cette édition avec la rubrique consacrée aux prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Dans un télégramme signé par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, et adressé au président vietnamien Tho Lam, le pape François a exprimé sa proximité spirituelle aux proches et à la famille de son Excellence Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste et ancien président de la République socialiste du Vietnam, décédé vendredi 19 juillet à l'âge de 80 ans. Tout en rappelant particulièrement son rôle dans l'engagement et la promotion du développement positif des relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, le Saint-Père rassure tout le peuple vietnamien de ses ferventes prières en ce moment de tristesse pour la nation. La visite du cardinal Pietro Parolin en Ukraine se poursuit. Après avoir rencontré et prié avec les communautés latines et gréco-catholiques ce week-end, le secrétaire d'État du Saint-Siège a rencontré mardi le président du Parlement à Kiev. Les deux hommes ont exprimé leur gratitude pour cette visite, au cours de laquelle a été soulignée la tension constante du pape François pour ce pays. Le cardinal s'est, quant à lui, exprimé sur le sens de sa présence en Ukraine en réitérant la nécessité de créer des espaces en faveur de la paix. On l'écoute.
Credo che il messaggio principale sia quello di tenere viva l'attenzione della comunità internazionale.
Je pense que le message principal est de maintenir l'attention de la communauté internationale sur cette guerre, de veiller à ce qu'elle ne devienne pas un autre conflit oublié et de continuer à soutenir l'Ukraine, en particulier en ce qui concerne l'aide humanitaire. Et puis, on pourrait faire preuve aussi d'un peu de créativité en trouvant des formules qui peuvent aider à ouvrir des voies vers la paix, car il me semble que nous sommes encore assez loin d'une solution négociée. Bien sûr, il y a la plateforme pour la paix du président Zelensky, que nous avons soutenue dès le début dans la mesure où elle nous semble être une tentative de paix, même si nous sommes conscients de sa faiblesse due au fait de ne pas avoir impliqué la Russie. Car évidemment, quand on fait la paix, il faut la faire à deux. Mais il me semble que nous en sommes encore loin et j'espère que d'autres formules pourront être trouvées pour ouvrir une lueur d'espoir.
Anche altre formule che permettano di aprire qualche spiraglio.
Rendons-nous à présent au Burkina Faso, où a été célébré samedi 20 juillet le jubilé d'or sacerdotal de l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Mgr Paul Yemboaro Ouédraogo. Une célébration au cours de laquelle l'ordinaire du lieu a ordonné trois prêtres dans la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Plus de détails avec Paul Da.
Le samedi 20 juillet 2024 fut pour l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso un jour de joie et d'action de grâce tout particulier. La raison, le jubilé d'or sacerdotal de son archevêque, Mgr Paul Yemboaro Ouédraogo, ainsi que le don de trois nouveaux prêtres dans les personnes de Ghislain Meda, Aristide Bambara et Jean Kabore, qu'il a ordonné dans sa cathédrale au cours de la messe jubilaire. Se sont associés à cette immense allégresse les évêques du Burkina, y compris le nonce apostolique en poste, ainsi que les prêtres venus des différents diocèses du pays, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée et du Mali, sans compter l'immense peuple de Dieu qui a débordé la cathédrale Notre-Dame de Lourdes et sa cour intérieure. Voici la lecture que donne Mgr Paul de ce double événement.
Au moment où moi, c'est vrai, je me prépare à aller en repos, ça fait du baume au cœur d'ordonner 3 jeunes qui, eux, vont commencer le travail maintenant. Donc cela signifie que, bon, il y a de la relève. Parce que vous savez, comme pour tous les combattants, les généraux, c'est pas le personnel qui est sur le terrain qui les préoccupe. Leur souci, c'est de toujours savoir est-ce qu'il y a du renfort qui se prépare. S'il n'y a pas de renfort qui se prépare, là, ça devient la catastrophe. Là, Dieu merci, il y a de la relève. Donc, je suis très heureux pour ces 3 jeunes et je leur souhaite un bon, long et fécond ministère. Ça, c'est...
La fin de la célébration a été marquée par une pluie vue par beaucoup comme une pluie de bénédictions déversées du ciel. Paul Daouagadou pour Radio Vatican.
Faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. De petits groupes de jeunes en Ouganda ont bravé mardi une interdiction de manifester malgré de nombreux barrages de la police anti-émeute massivement déployés dans la capitale Kampala et l'arrestation de plusieurs figures du mouvement selon un de leurs avocats. Les organisateurs de ces manifestations, pour dénoncer la corruption et inspirés par le soulèvement de la jeunesse au Kenya, ont annoncé vouloir marcher en direction du Parlement, dont les alentours ont été bouclés par les forces de l'ordre. 3 figures du mouvement, George Victor Otieno, Kennedy Ndiaye Mwaki et Poise Aloekin Opoleje, ont été arrêtés alors qu'ils marchaient vers le Parlement et emmenés dans un lieu inconnu par la police, a déclaré un de leurs avocats, Ashraf Kwesi, poursuivant que c'est le prix que nous sommes prêts à payer. Au moins 146 personnes sont mortes dans un glissement de terrain survenu lundi dans le sud de l'Éthiopie après de fortes pluies, selon un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir, ont annoncé mardi les autorités locales. Un total de 146 corps ont été découverts, parmi lesquels 96 hommes et 50 femmes, et les recherches continuent de façon intense, a déclaré dans un communiqué Abtamu Fetena, responsable des relations publiques de la zone administrative de Gofa, qui a précisé que le nombre de morts pourrait augmenter. L'église rwandaise a ouvert depuis le 10 février 2024 les festivités marquant les 125 ans de l'évangélisation au Rwanda. Dans cette deuxième et dernière partie de l'interview accordée à Radio Vatican Vatican News, le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali et président de la conférence épiscopale rwandaise, nous parle de ce jubilé qui sera également l'occasion de célébrer la réconciliation dans le pays après l'expérience tragique du génocide vécu en 1994.
La réconciliation est à 3 niveaux. Réconciliation avec Dieu, parce que chaque péché, chaque infidélité, c'est une offense en premier lieu à Dieu. Deuxièmement, réconciliation avec soi-même. Nous avons vécu des périodes tragiques avec des expériences de choc, ce qui fait qu'une personne aussi se trouve en conflit avec soi-même. Et il faut se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son histoire. Ce que nous appelons la purification de la mémoire. C'est un processus très complexe qu'on est en train de parcourir, de cheminer. Et puis, après la réconciliation avec Dieu et avec soi-même, on est dans la capacité de se réconcilier avec les autres.
Quelles sont les grandes lignes de cette célébration?
Nous avons 9 diocèses. Et pour pouvoir mobiliser la participation de tout le monde, et il y a les jubilés au niveau diocésain, mais au niveau national, nous avons un programme de faire le parcours de tous les diocèses suivant l'histoire, les événements historiques qui marquent chaque coin du pays.
Qu'attendez-vous de tous les catholiques du pays?
Nous attendons d'abord le renouvellement et le renforcement de la pratique de la foi. Chaque jubilé, nous essayons à ce que ça donne des fruits dans la pratique de la foi, les sacrements, renforcer et augmenter notre foi. Deuxièmement, la participation active dans la vie et les activités de l'Église. Troisièmement, un effort dans la communion et la participation dans notre mission d'évangélisation. Et comme le synode, que aussi nous venons de terminer au niveau du pays, c'est l'union, la communion et la participation dans notre mission d'évangélisation, où les laïcs, les jeunes et même les enfants jouent leur rôle dans l'évangélisation. Chaque baptisé a la mission de partager la bonne nouvelle aux autres. Quatrièmement, j'attends la créativité dans l'évangélisation. Dans notre monde qui change, et les différentes expériences quotidiennes et nous demandent d'être créatives pour rendre efficace et renouveler l'évangélisation. Surtout le témoignage de charité fraternelle, la charité envers les pauvres et la miséricorde.
Y a-t-il un thème à cette double célébration de jubilé?
Le thème, partant du thème de l'Église universelle que le Saint-Père nous a donné, pèlerin de l'espérance, et tenant compte de la réalité locale, nous avons choisi comme thème « Fixons notre regard au Christ, source d'espérance, de fraternité et de paix ». Et comme je l'ai dit, le jubilé au Rwanda porte un cachet de l'histoire de l'Église locale. Nous sommes des pèlerins de l'espérance ensemble avec tous les chrétiens dans le monde, mais nous sommes donnés aussi ce thème de fixer notre regard au Christ, qui est la source de notre espérance, et aussi la fraternité et la paix étant donné notre histoire, et étant donné du fait que nous sortons d'une expérience douloureuse de division et de violence, et nous envisageons de plus en plus construire la fraternité et la paix.
C'était le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali et président de la Conférence épiscopale du Rwanda, interrogé par Françoise Niamia. Refermons cette édition avec notre rubrique consacrée aux prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde. Parole à Françoise Niamia.
Commençons par le synode annuel des évêques chaldéens qui vient de s'achever à Bagdad. Au cours de ce synode, les évêques chaldéens ont notamment évoqué avec inquiétude les nombreux conflits qui déchirent le Moyen-Orient en se concentrant particulièrement sur la situation en Terre Sainte. Les évêques du synode chaldéen présidé par le patriarche Louis-Raphaël Sacco, en plus d'exprimer leur profonde préoccupation, condamnent les violences sous toutes ses formes. D'où l'invitation à la communauté internationale à faire de sérieux efforts pour protéger et affirmer la paix en tout temps, afin de mettre fin immédiatement à la guerre. Sur les solutions possibles, les évêques chaldéens épousent la ligne que le pape François a également exprimée à plusieurs reprises, à savoir celle de deux peuples dans deux États voisins vivant dans la paix, la sécurité, la stabilité et la confiance mutuelle. Le regard des évêques chaldéens s'est également porté sur le peuple chrétien vivant dans la région, un peuple qui a beaucoup souffert au cours des deux dernières décennies en raison de la privation de ses droits, de la marginalisation, de l'exclusion sociale et de la saisie des biens et des propriétés. Don Ior, prêtre gréco-catholique ukrainien, vit dans la région de Kherson depuis 2005, la région la plus meurtrie par les bombardements russes. L'invasion russe a été un grand défi pour lui en tant que prêtre, mais il explique qu'il a puisé sa force dans la confiance avec ses paroissiens.
Mes paroissiens ont été très impressionnés par le fait que moi, en tant que prêtre, je ne les ai pas oubliés. Même lorsque, à cause de l'invasion russe, j'ai été contraint de partir et qu'ils sont restés ici pendant plus de 8 mois. Avant la guerre, il y avait tout au plus 15 à 20 personnes à la divine liturgie le dimanche, alors qu'à mon retour, et jusqu'à aujourd'hui, 150 à 250 personnes assistent à la messe chaque dimanche. Beaucoup ont commencé à venir à l'église parce qu'ils disaient « ce n'est que depuis que nous avons perdu notre liberté et tout perdu que nous avons compris l'importance de Dieu dans notre vie ». Ils éprouvent également de la gratitude parce que Dieu n'a pas oublié leurs enfants qui ont fui à l'étranger et qui vivent aujourd'hui dans différentes parties du monde.
Don Ior, prêtre gréco-catholique ukrainien, dans des propos recueillis par Tivilana Dukovic, notre consoeur de la rédaction ukrainienne.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.